Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Couple et travail font-ils bon ménage avec l'utilisation massive des écrans, des réseaux sociaux, avec le télétravail? La cloison entre vie personnelle et vie professionnelle est poreuse. Comment équilibrer ces deux sphères, trouver une juste place pour chacun et pour sa vie spirituelle? Équilibrer sa vie conjugale et sa vie professionnelle, c'est le défi auquel de nombreux couples sont confrontés aujourd'hui. Nous en parlons avec le père Pierre-Marie Castegnos de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes de passage dans notre région puisque vous séjournez quelques jours à l'abbaye de Boulor. Mais en fait, vous venez de l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise puisque vous êtes donc dans cette communauté et vous animez régulièrement des conférences et des retraites de préparation au mariage. Vous accompagnez des couples, de nombreux couple et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, ce dernier ouvrage, Couple et vie professionnelle chez Salvator. Alors j'aimerais bien qu'on commence par cette première question de la tendance qu'ont beaucoup de couples, hein, on pourrait dire presque tous, à cloisonner notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie spirituelle, afin d'être plus efficient. En fait, c'est ce qu'on croit, mais est-ce que c'est un leurre?
C'est un leurre très certainement parce qu'en fait, et c'est un peu l'intuition de ce livre, et c'est mon expérience aussi dans l'accompagnement des couples, le fait de dire les choses sont en lien, il faut passer du wagon compartiment au wagon corail. Vous vous rappelez quand le wagon corail ou le wagon TGV maintenant, où il n'y a plus de compartiment, c'est-à-dire que ce que je peux vivre dans ma vie de couple rejaillit, retentit dans ma vie professionnelle et un temps de chômage évidemment a des impacts sur la relation matrimoniale. Et donc c'est l'intuition de ce livre de voir que tout est lié, qu'il y a un lien, il y a une communication, il y a une communion entre les différentes réalités de nos vies, alors qu'on veut agir en silo. Eh bien je crois que le livre dit autre chose, dit non, c'est une fausse piste, fausse bonne idée d'une certaine manière, parce que les gens veulent se protéger, je cloisonne comme ça, non. Parce que évidemment, si vous avez, par exemple, on parlait hors micro des questions des faillites, si vous fondez votre entreprise, et une grande partie des fondations d'entreprise se terminent par des faillites, c'est pas sans conséquence
sur la
relation familiale, conjugale, etc., et oui, sur l'estime de soi, sur voilà. Donc, je crois que c'est vraiment assez important et de dire, au fond, je suis parti le premier chapitre du livre, c'est une méditation sur un texte de Saint Jean-Paul II, qui un texte dans parmi les derniers documents qu'il a publié dans son magistère, c'est le nouveau millénaire qui commence et c'est une partie de ce texte de ce document qui s'appelle la spiritualité de communion.
Et justement, je vous cite, vous écrivez dans votre livre dans le fragile équilibre entre la vie conjugale et la vie professionnelle, cette nécessité d'affermir le couple par la communion et cette communion, c'est un décentrement de soi-même, un combat spirituel contre soi-même. Alors, comment faire cet apprentissage de la communion?
Cet apprentissage de la communion, déjà, premièrement, est-ce que pour moi, c'est une priorité? Est-ce que c'est un critère de discernement? Le lien et la qualité de lien à l'intérieur de mon couple et de ma famille va être un critère de discernement pour ensuite mes choix professionnels. Et je pense que c'est, si je pars de ça, du coup, critère de discernement, ma religion, c'est celle de l'agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'agenda, je donne un temps et un lieu pour pouvoir vérifier la qualité de lien. C'est l'intuition des équipes Notre-Dame, vous savez,
oui,
avec fameux
devoir
de s'asseoir, etc., et qui est vraiment une excellente initiative et une excellente intuition. Voilà, ce devoir de s'asseoir, eh bien, si tous les couples le faisaient, avoir une relecture de sa vie professionnelle à l'aune de la qualité de lien, est-ce qu'un déménagement, est-ce qu'une formation, est-ce que une transition professionnelle, tout ça, qu'est-ce que ça a eu comme impact? C'est vraiment, et c'est vrai que c'est un combat spirituel, parce que c'est vrai que choisir le lien et la qualité de relation comme un axe de discernement, c'est pas, parce qu'en nous, il y a des forces centrifuges aussi, en nous qui font que, l'autre, moi, je décide tout seul.
Et puis souvent, le couple est une variable d'ajustement, finalement,
exactement,
par rapport à la vie professionnelle.
Le couple est une variable d'ajustement de mon emploi du temps professionnel, si j'ai le temps, etc. Et ça, je crois que je veux dire que c'est ce rapport au temps aussi qui est à l'intérieur même de l'intuition de ce livre, c'est-à-dire que Comment est-ce que je gère? Et est-ce que je suis capable de dire non à des propositions professionnelles parce que c'est le temps du couple, parce que c'est le temps de la famille?
Oui, et ça, et vous dites, c'est effectivement un combat parce que ça n'est pas forcément évident.
C'est pas intuitif. Ouais. C'est pas intuitif et c'est pas la vie professionnelle qui va vous pousser vers ça, qui va vous dire, écoutez, non, surtout votre employeur, non, prenez du temps pour votre famille. Non, si vous pouvez répondre pendant vos congés aux mails, c'est très bien.
Et répondre au téléphone quand vous êtes déjà rentré chez vous.
Et déjà voilà, à table, voire à table, c'est très désagréable. J'en parle un peu sur la question du rapport aux écrans, etc. Et je crois qu'il faut sanctuariser au niveau des repas familiaux, par exemple, sanctuariser dans même la chambre matrimoniale. Il y a une étude récente qui est sortie qui dit que des jeunes couples font de moins en moins l'amour parce que précisément, ils s'endorment avec leur portable, en train de regarder du TikTok, et finalement épuisé, ils font plus attention à l'autre, ils n'ont plus de relation de tendresse, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment cette porosité, donc il faut être très attentif à ces allers-retours entre ces deux réalités.
Dans cette exigence de communion, il y a finalement cette volonté que réussir son couple, c'est un projet en soi.
Bien sûr. C'est le projet, je veux dire, réussir son couple, c'est le projet pour ceux qui décident de suivre cette voie, c'est vraiment le projet, je veux dire. Et c'est pas, ça se fera pas tout seul, je veux dire, c'est, aimer n'est pas spontané. On voit en nous, et c'est pour ça que c'est un combat spirituel, en nous, il y a des forces qui nous emmènent loin de l'autre. Donc, et tout est fait dans notre société, en tout cas, pour nous éloigner du Seigneur, déjà. Bon, j'aime bien cette citation de Bernanos, je sais pas si je l'ai mise dans le livre, la société. La société moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. C'est la France contre les robots en 1946. Il disait ça, donc que dirait-il aujourd'hui? Et donc cet éloignement du Seigneur fait que progressivement on voit la société comme une juxtaposition de personnes. On voit le couple comme une juxtaposition de personnes.
Une notion individuelle, individualiste.
Individualisme. Même au niveau des impôts, maintenant chacun va faire sa déclaration. Parce que c'est vrai que la quantité de divorces, etc. Bref, donc il y a plus cette dimension de corps. Et je crois que le fait de mettre la communion au centre même du critère pour choisir les évolutions professionnelles, etc., je trouve que c'est le bon critère parce que c'est ça qui va donner une unité.
C'est
l'unité de vie.
Et ça permet aussi de lutter contre l'égoïsme, le perfectionnisme et l'activisme aussi dans le travail.
Qui sont les deux obstacles à la communion. Les grands activisme et perfectionnisme, c'est vraiment les obstacles à la communion. Perfectionnisme, c'est-à-dire que je vois tout de suite le point noir dans la page blanche, je n'accueille pas les fragilités de l'autre. Activisme, je mets dans 24 heures, dans plus de 24 heures. Et ça vient aussi du monde professionnel. Ça vient de l'éducation, mais le monde professionnel encourage à la fois perfectionnisme et activisme, et n'encourage pas la contemplation. C'est évident.
Oui. Vous avez parlé un petit peu, Pierre-Marie Castagnos, du ce rapport au temps. Il diffère, évidemment, forcément, selon que nous sommes dans une sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Il vient particulièrement influencer la vie conjugale?
Ça vient influencer parce qu'il y a cette porosité dont on parlait tout à l'heure, qui précisément fait que dans ma vie professionnelle, on passe quand même plus 80% du temps éveillé au travail, qu'on est à plein temps en tout cas, ce qui veut dire qu'au fond, dans ce temps professionnel, on demande de répondre en temps et en heure, on a une urgence, etc. Bon, c'est là. Progressivement, surtout avec le télétravail, avec la question du Covid aussi, progressivement, ces habitudes professionnelles
d'exigence et d'immédiateté
se passe ensuite dans les relations matrimoniales. Je t'ai envoyé du coup un mail hier, tu apparais alors qu'on va se croiser peut-être dans 2 heures. Et pourquoi est-ce qu'on parlerait pas? Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, je disais ça dans un nombre d'entreprises font marche arrière par rapport au télétravail parce qu'ils disent le fait de pas être ensemble dans la même pièce fait perdre énormément de temps. Alors que si autour de la machine à café, ça évite au moins une dizaine de mails incendiaires. Et on se dit, tu pensais ça, mais je pensais ça, etc. Donc on voit même le monde du travail fait marche arrière par rapport à ce perfectionnisme et cet activisme.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, avec cette porosité entre les deux sphères, d'exiger de l'autre plus que ce qu'il peut donner, un peu comme on exige d'un collaborateur?
Oui, d'un collaborateur, surtout si l'autre n'a pas une vie professionnelle aussi développée que son conjoint. pour faire un peu schématique, bien des femmes ont des vies professionnelles en pointillé pour les enfants, etc., etc. Mais il y a ce qu'on appelle le travail invisible. C'est-à-dire, je rentre moi-même, j'ai ma journée, etc., comme homme, etc., de rempli, et je vois au fond, qu'est-ce que tu as fait toute la journée ? Et je crois que ça fait qu'on ne valorise pas. Et aujourd'hui, dans la vie professionnelle, beaucoup se plaignent, surtout la jeune génération, de ne pas être valorisés dans leur travail. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui...
Quel qu'il soit.
Mmh. Il y a un manque de valorisation. Et c'est l'un des grands reproches qui est fait au management, en tout cas dans nombre d'entreprises, d'être dans l'efficacité, mais à la fin, il n'y a que du négatif. Le perfectionniste, c'est le point noir dans la page blanche. Et alors, je donne mon maximum. Et ça, transférer à la vie matrimoniale, évidemment, c'est mortifère parce que c'est source de tension, voire de séparation.
Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour cette reconnaissance ? Est-ce que c'est justement dans le cadre de ce devoir de s'asseoir dont vous parliez au début qu'il faut finalement que chacun remercie l'autre pour ce qu'il fait ?
Oui, je crois que c'est à ouvrir les yeux. Il y a une forme d'aveuglement quand on est trop impliqué, je pense par exemple aux créateurs d'entreprise, trop impliqué dans la vie professionnelle, quand on est trop à fond dans son métier et que l'autre, il y a une sorte d'aveuglement, et ce qui fait qu'on ne se rende pas compte du travail des autres. Moi qui vis en communauté, quand il y a des frères qui sont absents, etc., mais qui ont des tâches toutes humbles, sonner les cloches, fermer les portes de l'abbaye, sortir les poubelles, ils ne sont pas là qui le fait.
Et oui.
On se rend compte, tel frère, il faisait tout ça. Alors que moi, je suis en train de donner des grandes conférences partout. Voilà, donc, ça nous fait beaucoup de bien. Et du coup, de remercier l'autre pour ce qu'il fait et d'avoir une sorte de sortir de cet aveuglement de l'efficacité et du perfectionnisme pour valoriser et soutenir.
J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est quand même délicat, c'est la question de l'infidélité, puisque le monde du travail peut être aussi source de tentation. Elle se niche pas forcément là où on s'imagine. Quelle forme elle peut prendre et évidemment comment s'en délivrer ?
Ah oui, ouais. La question, j'ai fait tout un chapitre sur les infidélités au pluriel.
Oui, c'est ça.
Parce que précisément, il y a plusieurs formes d'infidélité. C'est sûr que faire passer son travail avant sa relation ou donner l'impression que l'autre est une variable d'ajustement de mon emploi du temps
professionnel. C'est déjà de l'infidélité.
C'est déjà, je ne mets pas l'autre au centre. Il y a quelque chose de... c'est le partage de toute la vie, c'est ça. C'est ça la vie matrimoniale, c'est le partage de la vie. Ce n'est pas juste le partage de quelques heures. Donc l'autre n'est pas la variable d'ajustement de mon emploi du temps. Donc, mais ensuite, s'il y a des couples qui se forment au travail, il y a des couples qui se défont parce que précisément, et je cite plusieurs exemples, ces questions d'infidélité viennent du fait que je passe plus de temps éveillé avec mes collaborateurs, avec mes collègues, qu'avec mon... Et je ne crois pas du tout à l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Il y a des styles d'hommes, des styles de femmes qui nous plaisent. Et donc, et surtout, vous avez rencontré dans les ambiances où vous êtes, des gens avec le même niveau de formation, parfois les mêmes valeurs, parfois, etc. Et du coup, vous allez sentir une sorte d'attirance. Et je donne plusieurs exemples. Je pense à cet homme qui est vraiment pas du tout dragueur, au contraire, très sur la réserve, etc., extrêmement fidèle, etc. Et il est passé de l'industrie à la banque, l'industrie majoritairement masculine, la banque majoritairement féminine avec 9 semaines de vacances, congés payés. Et puis, petit à petit, avec une de ses collaboratrices, qui aurait pu potentiellement, dans une autre vie, être sa femme, tout à fait. Et du coup, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'éveillait en lui, et du coup, il a donné sa démission.
Et c'est très courageux.
Parce qu'il a dit, c'est sa femme, lors de l'invitation de ce couple, avec cette collaboratrice et son mari, qui aussi fréquentait la paroisse, etc., et dit... Le couple s'en va, elle lui dit « tu es amoureux ». Et il ne s'en était pas rendu compte.
Oui, la femme l'avait vu.
C'est comme ça que tu m'as regardé la première fois.
Waouh.
Et ça a été un choc, parce que lui, c'est un homme archi fidèle. Et il ne s'est rien passé. Hein. On parle de rien.
Oui.
Moi, c'est pour ça, j'invite, qu'est-ce qui, en amont, va pouvoir éventuellement être des warnings Et ça demande une vie interspirituelle, bien sûr, pour dire, attention, là, je suis en train de rechercher la présence de l'autre, parce que c'est ce que je faisais au début avec moi,
celui, c'est ça,
celle
parce
qui
que l'autre ne me comble pas, parce que...
Pour X raisons, pour 10, 15 ans, 20 ans de vie matrimoniale, etc. On a grosso modo fait le tour de l'autre, et puis du coup, on veut de la nouveauté, je pense que c'est assez exigeant de dire justement cette question quand c'est pas aussi les entreprises qui organisent des formes de avec des venez sans les conjoints,
des séminaires
d'entreprise, etc., à Ibiza, etc. Bref, donc voilà, on voit bien, voilà. Et là aussi, faut être très attentif. Et je pense aussi à des personnes qui ont l'occasion de travailler en one-to-one comme ça avec les personnes de l'autre sexe, mais ou qui sont. Je me souviens, ce directeur commercial me disait, moi j'étais qui travaillait auprès des grandes surfaces, ma collaboratrice. On était du lundi au vendredi, de 9h à 19h dans la voiture.
Ensemble,
et on allait voir les rayons dans les différents supermarchés. Bon, le lundi, on se dit, qu'on a fait le week. Il dit, il ne s'est rien passé. Mais je passais beaucoup plus de temps. Et puis, on se confie. Et on laisse regarder à l'intérieur. On laisse, etc. Et je pense que cette question de cette infidélité, je parle d'infidélité, il y a deux formes, ad intra et ad extra, c'est-à-dire ad intra, à l'intérieur du couple, c'est ce manque de fidélité qui consiste justement à ne pas valoriser son conjoint, à ne pas être attentif, etc., fait que progressivement, ad extra, qui est l'adultère, ou des gestes posés qui sont répréhensibles, le manque de fidélité à l'intérieur du couple fait le lit au sens propre et figuré de l'adultère lui-même. Donc je pense que c'est intéressant. Là aussi, il y a des allers-retours. Là aussi, il faut pas. Ce que je vis avec mon conjoint au quotidien va protéger ou non mon couple.
Vous disiez, Père Pierre-Marie Castagnos, qu'il fallait vérifier tout cela dans la prière, dans la vie spirituelle. Comment concrètement voir où est le curseur et où est le bon équilibre?
Moi, ça m'a. J'ai un exemple qui m'a. Je pense que j'en parle dans le livre. Ça m'avait beaucoup marqué d'un couple, mais vraiment formidable. Ça. Et lui, garçon vraiment formidable, mais un an et demi de vie. De double vie. Hein. Et il me dit une chose, il me dit, engager dans faire des sessions à parole moniale, vie de prière, de couple, les enfants, etc., très engagés dans la paroisse, bref. Et il me dit, il me manquait cette intimité avec le Seigneur qui fait que j'étais dans une forme d'impunité. Et alors que. Et à un moment donné, il dit à son épouse, voilà ce que je vis, etc. Elle, c'est son monde qui s'est complètement effondré. Oui. Et pas avec ce qu'on vit, pas les valeurs qu'on transmet aux enfants, pas avec notre implication spirituelle. Et je me dis, voilà, là aussi, voyons les choses dans un aller-retour, voyez les choses non pas dans un cloisonnement, mais au contraire dans une respiration. Et le manque de vie spirituelle fait que je suis moins attentif aux warnings, qu'on appelle aussi motions du Saint-Esprit, les warnings qui, en moi, je dis, oh là, attention là. Là, il y a potentiellement un danger et qui fait qu'en fait, je suis aveuglé.
Je laisse glisser.
Et je laisse glisser.
Oui, c'est ça. Ouais. Vous écrivez dans votre ouvrage, le jugement de conscience est parasité par une intelligence blessée par l'ignorance et l'erreur.
Et oui, c'est moi j'ai fait mes études avec des grands maîtres de Saint Thomas d'Aquin et Aristote, et il dit qu'est-ce qui blesse l'intelligence? C'est l'erreur justement et l'ignorance. L'erreur et l'ignorance. Voilà. On se justifie. On rationalise, j'ai bien raison d'agir comme j'agis, etc., pour X raisons, dans beaucoup de domaines. Hein. Quand il n'y a pas très longtemps, on faisait notre déclaration d'impôt. Ah, voilà, on ne va pas mettre ça parce que, voilà, quel est le plus grand voleur? C'est l'État. Donc, voilà, mais ça, c'est rationnel. On rationalise une erreur. Donc, et pareil, et l'ignorance, de dire, au fond, l'ignorance, manque de formation spirituelle, manque de formation humaine, qui fait qu'on se met dans des situations qui sont ensuite des impasses.
Parce qu'on ne voit plus trop la frontière entre le bien et le mal.
Voilà,
Fait un petit peu sa sauce.
On se fait à sa sauce, c'est une sorte de relativisme. Hein, on se fait à sa sauce, voilà, puis on se donne toujours des bonnes raisons d'agir comme on agit. Hein, si l'autre était plus prévenant avec moi, ce ne serait pas arrivé. Voilà, du coup, alors que c'est moi le coupable, je me fais victime. Mmh. Donc ça, c'est rationalisé, et c'est une erreur. Donc je crois que c'est... de dire notre intelligence, elle est blessée par les conséquences du péché originel en nous. Ça, il faut aussi en prendre conscience et de se dire, tiens, qu'est-ce que je me donne comme, dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que je me donne comme éléments qui me permettront d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Et est-ce que je fais peut-être aller voir une personne qui, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, pour un discernement. Voilà ce que j'ai, ce que je vis à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous paraît prudent, pas prudent, etc., etc. Je pense aussi d'être dans une humilité, de se mettre sous le regard d'un autre qui a plus d'expérience et qui validera ou non une conduite.
Oui, et puis vous citez cette citation de Jean-Paul II, le corps c'est le langage le plus fort, parce que vous dites qu'il faut finalement pas séparer, pas déconnecter le corps de l'âme.
C'est déconnecter le corps de l'âme, ce qu'on appelle le dualisme, et la déconnexion du corps de l'âme, c'est la mort. C'est le principe de la mort. Donc, et je crois que c'est intéressant de dire qu'aussi, je fais souvent le lien avec la relation intime des époux. La relation intime des époux, vie professionnelle et qualité de relation. Parce que là aussi, il y a une respiration. Et je pense, je citais un exemple d'un couple. Lui était célibat géographique, ce qu'on appelle célibat géographique. Couple à distance, qui voudrait mieux. Rien que de dire célibataire, célibat géographique,
c'est pas juste.
Parce que ben non, je suis en couple. Oui. Mais pour X raison, il n'y avait pas d'autre solution. Mais ils avaient mis un cadre qui fait que du lundi au vendredi, ils étaient absents. Ils ne prenaient aucun engagement le week-end et ils avaient toujours un moment d'intimité avant de repartir. Et ce cadre-là, ils le verraient. Et ce qui fait qu'ils ont pu durer dans la distance, alors que d'autres couples qui n'étaient pas à distance se sont séparés. Et je crois beaucoup au cadre. Le fait de poser un cadre ensemble, cadre qu'on écrit, qu'on signe et qu'on relie, qui fait qu'on peut tenir la distance, parce qu'évidemment, un couple à distance sur plusieurs... là, les questions d'infidélité, parce qu'il avait du coup forcément un autre appartement ailleurs qui était pourvu par l'entreprise, etc. Et ça a été dans leur discernement. Ça a été quelque chose de dire, mais est-ce que tu vas tenir le coup est-ce que je ne vais pas me sentir trop seul et je pense que le fait qu'ils se soient posé un cadre qui aille jusqu'à rythmer leur intimité, je trouve ça vraiment...
vraiment très lucide.
Très lucide. Et ils sont encore mari et femme aujourd'hui, et à la retraite, donc ils ont passé toute leur vie professionnelle avec ce cadre-là
avec
qui a fait
ce
que...
Avec ce cadre et séparé fait,
bien sûr, maintenant, aujourd'hui, en plus, avec la vision, on peut avoir un temps... chaque jour, ils s'appelaient pour avoir des nouvelles de la famille.
Ça maintient le lien sur le quotidien.
Le quotidien, voilà. Je pense que c'est important de dire... C'est un lieu, et c'est ce que je termine dans la conclusion de cet ouvrage, c'est un lieu aussi de combat. Hein. C'est comme cette terre promise qui d'où coule le lait et le miel, mais qui est aussi un combat. On voit ça dans la parole de Dieu, c'est une terre de combat entre les Jébuséens, les Amoréens, etc. etc. C'est une terre, et la Terre Sainte est encore un lieu de combat. Mais je veux dire, c'est les deux. C'est à la fois un lieu de fécondité et à la fois un lieu de lutte.
Et un lieu de combat. Je vous propose, Père Pierre-Marie Castaignos, de marquer une pause. Nous parlerons juste après de trois situations professionnelles qui mettent à mal l'équilibre conjugal, le chômage, la faillite et le burn-out. Et puis vous nous direz comment ces crises peuvent être un tremplin aussi pour le couple. Nous écoutons « Aimons toujours, aimons encore », interprété par Les Frangines.
Aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux monde, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable, aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Soyons le miroir et l'image. Soyons la fleur et le parfum. Les amants qui seuls sous l'ombrage se sentent deux et ne sont qu'un.
les loups ou les blâmes, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme
à la jeunesse de ton front.
Aime afin de charmer tes heures, afin qu'on voit en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux.
L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Soyons le miroir et l'image. Soyons la fleur et le parfum. Les amants qui seuls sous l'ombrage se sentent deux et ne sont qu'un.
Unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage. Que notre âme croise son amour.
L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur.
Soyons le miroir et l'image. Soyons la fleur et le parfum. Les amants qui, seuls sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Vie conjugale et vie professionnelle, c'est le sujet de notre réflexion aujourd'hui. Nous sommes avec le père Pierre-Marie Castaignos de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie et auteur de Couple et vie professionnelle chez Salvator. La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Des événements divers comme le chômage, la faillite et le burn-out peuvent mettre à mal le couple. Vous écrivez à propos du chômage que ce chômage peut être la plus grande épreuve pour un couple, mais aussi la meilleure chance de rebondir. Et vous mettez un point d'attention sur la façon dont la personne au chômage se présente aux autres. Soit elle est dans le déni, soit elle est victime, soit elle assume sa situation. Et dans ce cas-là, si le conjoint voit comment l'autre réagit, il peut l'accompagner. Et alors justement, comment se positionner face à ce conjoint au chômage ?
Alors c'est la question du chômage, je crois que c'est aujourd'hui, beaucoup en tout cas passent par la casse au chômage dans leur vie professionnelle. Mmh. Et quand c'est court, quand c'est quelques mois, ça va, mais quand ça commence à durer, c'est intéressant de voir comment celui qui est au chômage, dans un dîner, présent, parce que tout de suite, vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?
Bien sûr.
On ne demande pas, c'est quoi tes passions ? C'est quoi tes hobbies ? C'est quoi les personnes qui comptent pour toi ? Non, qu'est-ce que tu fais ? Tout de suite, le travail. Il y a une sorte d'hypervalorisation, d'hyperbonation du travail, c'est de façon hyperbolique, c'est excessif. Et donc, dire je suis au chômage, je suis en recherche d'emploi, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que parfois l'autre tourne le dos, tourne la tête et s'adresse à son autre voisin de table. Et n'a rien. Ou typiquement, ça même c'est autre chose, mais une mère de famille qui met en pause en disant moi je suis maman au foyer, etc. Mais on ne voit pas qu'elle a X de bénévolat de ceci, qu'elle est lien, fait du lien. Voilà. Et je crois que la question du chômage, ça invite, c'est une épreuve, surtout quand ça dure. Mmh. Surtout qu'on n'ose plus poser la question à l'autre.
Où en es-tu ?
Où est-ce qu'on est-tu, etc. On n'ose plus poser la question à l'autre. C'est intéressant. C'est, à un moment donné, parce que c'est un peu... Je crois que je fais le lien aussi avec la question des couples qui ont la difficulté d'avoir des enfants. Parce qu'on n'arrive plus, à un moment donné, au début on posait des questions, etc., puis à un moment donné on ne parle plus de ça.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a une fécondité.
Sujet tabou.
Il y a une fécondité qui aurait dû être au rendez-vous. Alors là, c'est la nature, etc., qui est parfois cruelle. Mais bon, pour la vie professionnelle, c'est pareil. Et je crois que c'est important de dire, tiens, comment est-ce que je me présente en société, moi qui suis au chômage, comment est-ce que je vis ça ? Est-ce que, et surtout, est-ce que celui qui est au travail valorise tout ce que, parce que rechercher un emploi, c'est un emploi.
Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire ne pas forcément dire à celui qui est au chômage, bah, puisque tu es à la maison, t'as que ça à faire, lance une machine, va chercher les enfants à l'école. C'est
exactement. Comme quoi, mais comment la vaisselle n'est pas encore faite, ouais, mais comment tu devais repeindre le salon d'ici 2 mois, comment tu fais quoi. Et ça, je pense qu'il y a aussi une forme de cécité, il y a un aveuglement. On ne voit pas tout ce que l'autre fait quand il se met vraiment en route. Et puis, il y a des périodes économiques qui sont plus compliquées que d'autres, et nous en vivons une en particulier, où certains veulent travailler mais ne trouvent pas d'emploi, etc., en accord avec leur formation. Voilà, comment est-ce que je suis capable de rebondir parce que si en plus du chômage, mon couple me lâche, ben c'est la descente aux enfers.
Oui, si vous voulez, et on le voit souvent, hein, dans les personnes qui arrivent après à la rue.
Les faillites, c'est encore plus fort. Donc, parce qu'il y a eu de l'argent mis du couple,
oui, c'est ça.
Voire de la belle famille, oui. Voire donc des amis qu'on a sollicités, est-ce que tu peux me reprêter, etc. Puis faillite, il y a un grand nombre d'entreprises qui se créent, que je donne une statistique, je ne me rappelle plus maintenant, mais qui tombent en faillite. Donc,
et ça abîme la confiance.
Hein. Et ça abîme la confiance, oui, forcément.
Et comment le conjoint peut-il soutenir son conjoint, son mari ou sa femme qui est au chômage
en prenant des nouvelles, tu en es où, qu'est-ce que tu as fait, ok, est-ce que tu veux que je te... Parce qu'il y a des baisses de régime, j'imagine, quand on est au chômage. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des moments de découragement. Oui, on aurait dû envoyer X candidatures, on ne l'a pas fait. X CV, on ne l'a pas fait. Bon, voilà, parce que voilà, bah, aujourd'hui, bah, que je sois capable d'entendre, bah, aujourd'hui, je n'avais pas la forme, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, je suis allé me balader.
Voire,
je suis allé au ciné. Parce que c'est facile de juger. Oui. L'autre est au travail. Et bon, aujourd'hui, j'avais besoin de souffler. J'avais besoin. Et le fait de ne pas juger l'autre, et je crois que c'est une grande partie de l'esprit positif dans lequel le demandeur d'emploi va pouvoir rester et se sentir soutenu par son coup. Maintenant aussi, il y a une chose par rapport au chômage. J'en ai beaucoup plus parlé dans le livre SUSL. C'est à quelle étape du couple, au niveau de la formation du couple, ce chômage apparaît. Oui. Si c'est avant le mariage, et j'ai eu des cas comme ça de garçons, c'était plutôt des garçons, parce que c'est vrai que la charge mentale du travail culturellement retombe plus sur le garçon, etc., et qui était au chômage pendant le temps de fiançailles, mais se bougeait pas du tout, voire avait enchaîné 3 périodes d'essai consécutives sans pouvoir déboucher sur un CDI. Qu'est-ce que ça dit aussi et donc là aussi, est-ce que c'est à l'intérieur du mariage ou est-ce que c'est en amont du mariage? Ce qui est dit est différent.
Oui, et ça, c'est aussi dans une question dans le discernement. Toujours dans ce cas du chômage, la personne qui cherche un emploi peut perdre confiance en elle, voire même tomber en dépression. Et là, pareil, quelle est la place de l'époux? Parce que ce n'est pas son médecin, ce n'est pas la personne qui va le sauver.
C'est ça, ce n'est pas la personne. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, etc., qui sont les 3 manières toxiques d'entrer en relation. Hein. Bourreau... victime, voilà, je suis, ou sauveur, voilà, je peux aider, mais à un moment donné, il y a l'autre aussi, il y a à voir des professionnels qui peuvent aider, il y a aussi de plus en plus du coaching, de l'accompagnement dans la transition professionnelle, parce que le fait du chômage, c'est qu'on n'a pas non plus d'horaire.
Oui, c'est vrai.
Et vous n'avez pas d'horaire. Alors, vous avez les horaires des enfants, l'horaire de l'école, etc. Mais bon, mais ensuite, vous avez toutes des plages horaires vides. Alors que quand vous êtes au travail, c'est rythmé, etc. Il y a pas... Donc, je pense que c'est important de se donner un rythme. Et que l'époux aide à celui qui est en recherche d'emploi à garder ce rythme, à valoriser, à encourager, voilà, de dire...
Oui, bah, vous utilisez ce sigle VTC.
VTC, valorise ton conjoint. Valorise ton conjoint, voilà, c'est avec des cartes, on valorise l'autre, parce qu'il y a des périodes, il y a des périodes où on est plus fragile. Je me suis rappelé de ce père de famille, ingénieur de formation, etc., au chômage, les enfants demandent à la maman, mais papa, il est toujours ingénieur. Est-ce qu'il est, oui, il est, et du coup, et c'est très important quand... Traditionnellement, quand c'est l'époux qui vit le temps de chômage, c'est plus douloureusement vécu. Et la place de l'épouse est très importante parce que c'est elle qui va donner aussi confiance et qui va renvoyer une image positive aux enfants. Alors, il peut y avoir aussi des tensions financières. Parce que lié au chômage, heureusement, on a des airbags sociaux en France qui font que ça aide, mais il y a les fins de droit aussi. Bon, et qu'est-ce qu'on arrive quand on est en fin de droit? Et il y a des emprunts qui ont été faits pour acheter la maison, etc. Donc, c'est tout ça. En tout cas, le conseil que je donnerais, ne restez pas seul. Pour toutes les situations professionnelles, mais situations dans la vie, ne restez pas seul. Demandez de l'aide, l'aide d'un professionnel. Il y a des réseaux de conseillers conjugaux, etc., qui aident. L'aide d'un père spirituel, voilà. Le fait de pas rester seul, parce que c'est une épreuve.
Et c'est une épreuve, mais c'est une épreuve dont on peut sortir grandi, puisque vous évoquez dans votre livre, Père Pierre-Marie Castagnos, que ça peut être un tremplin pour se rapprocher du Seigneur, ça peut être aussi une façon de découvrir des talents qui étaient insoupçonnés.
Exactement. Le fait d'avoir un accompagnement, ça fait que... Et le fait aussi de dire, peut-être d'autres autour de vous, ben, on prie à cette intention, on est vraiment... On est avec vous dans la prière. Je cite un cas d'un couple catholique de tradition, mais qui n'était pas pratiquant, et des amis pratiquants disent... On va prier, faire une prière à Saint-Joseph de façon à ce que tu trouves un travail, etc. Et à la fin de la neuvaine, il trouve un travail. Mmh. Et lui, pour lui, ça a été un signe. Il s'est dit, bon, hein, d'accord. Et il a démarré toute une vie spirituelle. Grâce à ce temps de chômage, a été un temps béni parce qu'il a recentré aussi sur l'essentiel. Lui qui était très focus sur sa carrière, sur le niveau de vie, etc. Il a vu la vie spirituelle avait aussi son importance.
Mmh. Vous avez évoqué rapidement la faillite avec les difficultés financières qui en découlent. Et puis, l'ego, forcément, de la personne qui est blessée. Je voudrais quand même qu'on parle du burn-out parce que c'est une autre situation professionnelle qui a des répercussions non négligeables sur le couple. Et puis, on en voit quand même beaucoup aujourd'hui. Et vous écrivez, ce n'est pas la générosité qu'il faut blâmer, mais oui, un manque de vie intérieure et de repos.
Et de repos. Ça, je crois que la question du burn-out, c'est vraiment... Et attention, le burn-out, ce n'est pas juste une fatigue. Le burn-out, c'est une grande claque que vous prenez qui vous met 6 mois à terre. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... C'est quand vous mettez... La clé dans votre voiture, la clé pour démarrer, il n'y a plus de batterie. Mmh. C'est pas j'ai fait un burn-out la semaine dernière, ça va mieux. Aujourd'hui, ça c'est un moment de fatigue, mais c'est il y a plus d'énergie. Je ne peux même plus lever le matin. Et il y a des témoignages comme ça des personnes. Ben, leur conjoint a dû les porter physiquement parce que même se lever, il n'avait plus d'énergie. Donc du coup, je crois que c'est intéressant la question du burn-out. C'est vraiment, la personne n'a pas été assez attentive aux warnings, aux motions du Saint-Esprit. Il y avait déjà des compensations parfois dans des addictions. Oui. Il y avait déjà des grands moments de découragement. Il y avait et on n'a pas été attentif, on n'a pas su dire non. Et dire non, c'est dire je. Et ça, je crois que c'est... On n'a pas su dire non à des sollicitations parce qu'on a voulu plaire au patron, à mon manager, ou plaire, ou au contraire faire plaisir, faire prendre partie du travail des collaborateurs pour les soulager. On s'est positionné comme sauveur. Donc je pense que c'est intéressant, ce burn-out qui est quelque chose qui frappe quand même des milliers de nos concitoyens, hein, et dans certains pays va parfois jusqu'au suicide, voire la mort au travail. Je pense à l'exemple du Japon, par exemple. Il y a des gens qui meurent au travail, ils meurent à la tâche, mais physiquement.
Oui, c'est
parce
ça.
Qu'il y a un épuisement des glandes surrénales, etc., qui nous donne la capacité de rebondir, qui fait que la personne meurt sur place. Donc, du coup, c'est les cas excessifs, mais nous, on a pas ce manque de vie intérieure qui fait que... Et ce manque de vie d'écoute du conjoint.
Oui, ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a quand même une correction fraternelle qui peut être faite par le conjoint,
absolument.
Mais ça, c'est pas forcément évident.
Oui, de dire, écoute, là, est-ce que t'en fais pas trop? Je te vois de plus en plus fatigué, je te vois de plus en plus triste, je te vois de plus en plus... parle-moi un peu plus. Là aussi, il y a parfois des formes d'enfermement, d'aveuglement, parce qu'il y a toujours des angles morts dans nos vies. On ne se voit pas agir.
Oui.
L'orgueil, c'est ça, c'est qu'on ne se voit pas agir. Et le fait d'avoir un conjoint ou un frère et soeur de
commun,
un effet miroir qui fait que... Mais est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'accepte? Ou est-ce que je suis tellement dans ma bulle que, en fait, ben, j'arrive et c'est uniquement quand je suis au pied du mur là, que je n'ai pas d'autre solution que de demander de l'aide.
Et vous écrivez que chacun est responsable de l'autre.
Et oui, ouais. Je pense que de dire qu'il y a une sorte de... Surtout entre conjoints, on est vraiment... On
à
prend
veiller
soin.
L'un sur l'autre.
On veille l'un sur l'autre. Hein. Ouais. Je pense que c'est... Et c'est intéressant de voir que l'inverse de Caïn et Abel, Caïn et Abel, où Dieu demande, mais où est Abel, ben, suis-je le veilleur de mon frère ? Suis-je le meilleur de mon frère ? Ben, justement, ça, c'est un des fruits du péché. C'est le premier homicide. Donc, quelque chose de mortifère de ne pas veiller sous prétexte de vouloir respecter sa liberté, etc. Et c'est, encore une fois, cet individualisme que l'on, qui se vit dans la vie professionnelle, mais qui retentit dans le couple.
Et qui retentit, qui résonne sur la vie de couple. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux chefs de service, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent à propos de la part qu'ils peuvent jouer, eux, dans l'équilibre de leurs collaborateurs entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle?
Alors, c'est délicat parce que quand on dit vie de couple, c'est vie privée et le contrat de travail, évidemment, ne va pas dans la vie privée, etc. Maintenant, il y a des choses, on peut faciliter des choses. On peut faciliter des choses en étant plus souple, par exemple, s'il y a un enfant malade. S'il y a un deuil dans la famille, mais qui ne rentre pas dans les deuils prévu par la convention collective ou le code du travail. On peut faciliter les choses en donnant peut-être des congés sans solde. Voilà, on dit j'ai besoin de ça, c'est compliqué à la maison, etc., etc. Et parce que c'est vrai, comme c'est souvent aussi des confidents pour certains. Comment est-ce que vous vivez? Donc, maintenant, il faut savoir garder sa place. Vous êtes pas les employeurs ne sont pas sauveurs des couple.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une force, une forme d'exemplarité?
Alors oui,
je pense que le
droit à la déconnexion, par exemple. Le droit à la déconnexion, et ça, je pense, c'est important dans la partie d'un chapitre sur le numérique, etc. Ben, de dire, voilà, vous, maintenant, celui qui est en vacances ne peut plus se connecter à sa boîte mail professionnelle. Parce qu'on a paramétré la boîte mail comme ça. De même, après 20h, vous ne pouvez plus. De même après... D'accord. Mais ça, parce que je cite un cas où il y a un chef d'entreprise qui a mis son couple en danger, il a réalisé ça, il a dit, mais ça, je ne vais pas l'imposer. Mais du coup, lui-même n'a plus non plus accès à son rôle professionnel. Vous voyez, qui fait que le temps que vous vivez, un couple qui est heureux, une personne qui est heureuse dans son couple, dans sa famille, c'est quelqu'un qui est heureux dans son travail.
Oui, tout est lié, comme vous
tout
disiez.
Tout est lié.
Oui, oui. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Tout est lié, sphère professionnelle, sphère personnelle et puis évidemment vie conjugale. Merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castagnos. Vous nous avez donné aujourd'hui des clés pour équilibrer sa vie conjugale avec son travail. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Couple et vie professionnelle chez Salvator. Merci beaucoup.
Merci Isabel, merci à tous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.